Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on vous emmène aux côtés de Zadig, le héros de Voltaire prêt à déplacer des montagnes pour être heureux et qui finira par y parvenir. Que faut-il pour être heureux? Hélas, bien souvent, la vertu ne suffit pas et les plus heureux d'entre nous sont parfois les plus méchants. Voilà qui déplaît à Zadig, bien déterminé à concilier bonheur et vertu. Allez en route sur les chemins de la philosophie, sur les traces de ces aventures extraordinaires de Zadig. Accrochez-vous, on commence par une montée puissante de Handel, Zadok the Priest. Bonjour Alain Sajar.
Bonjour Adèle Vanrette.
On est sûr désormais que tout le monde est réveillé. Hein.
Oui, je pense, c'est là, il y a de quoi faire et de quoi entendre.
Exactement. Alors, Zadok the Priest de Handel, je rappelle que Voltaire et Handel étaient contemporains. Handel est né en 1685, Voltaire en 1694. Sait-on si Voltaire connaissait ce chant?
Eh bien, en tout cas, il était à Londres, comme vous savez, entre 1726 et 1728. Et l'hymne, enfin les quatre hymnes de Handel datent de 1727, donc pour l'avènement du roi George II. Et on sait que Voltaire a été présenté à la cour de George Ier, hein, qui décède dans les premiers mois donc de cette année 1727. Et ensuite, donc il est à Londres au moment de l'avènement de George II. Mais on ne sait pas si véritablement il a écouté cet hymne. A-t-il été invité aux festivités de l'avènement? Ça, on ne peut pas le dire.
La question est intéressante parce qu'elle permet de s'interroger sur l'origine de ce nom Zadig. Voltaire invente le personnage. D'où tient-il ce nom?
Et en réalité, il y a deux étymologies possibles. Hein. D'abord, Zadik, en hébreu, Z-A-D-I-K, qui veut dire l'homme droit, hein, l'homme loyal, l'homme droit. Et puis, il y a aussi en arabe, Sadik, pas confondre, mais S-A-D-D-Y-Q, qui veut dire celui qui dit la vérité, l'homme vérace. Donc ça, je pense, c'est important parce que dans le conte, celui qui dit la vérité, donc il faut considérer que c'est le personnage de Zadig, et non pas, on y reviendra beaucoup plus tard, mais et non pas le fameux ange exterminateur présenté en ermite et dont on fait quelquefois la clé et dont à qui on attribue la signification du conte.
Voilà. Ce conte est absolument palpitant, c'est une histoire romanesque. Chaque chapitre, très court, hein, qui fait 2-3 pages, nous emmène vivre des aventures imprévisibles et toutes complètement rocambolesques. Il se lie avec un plaisir vraiment inégalé du début à la fin. On va le parcourir ensemble à la Sagère, mais avant ça, ce conte-là, le conte Zadig, a lui-même une histoire.
Oui, vous avez raison de dire qu'il est inclus en réalité dans un cycle qu'on pourrait appeler le cycle babylonien, sauf que la première œuvre que je vais citer se situe un peu à côté, à Persépolis. Mais effectivement, c'est un cycle et prendre en compte ce cycle permet, je crois, de comprendre la signification de Zadig proprement dit. C'est la période, pour simplifier, 1746-1748. Elle commence par la composition et la publication du Monde comme il va, qui est déjà un conte qui met en scène un babouk, donc un futur zadig, et un ange Ituriel. Ituriel envoie babouk pour voir s'il faut détruire Persépolis ou non, parce que il s'y déroule toutes sortes d'infamies, il y a des maux. Et finalement, la conclusion du conte, c'est tout est un alliage de bien et de mal, tout dans l'univers. Et au fond, cet alliage est indéfectible. Et la conclusion finale, c'est si tout n'est pas bien, tout est passable. Donc là, on est déjà décalé par rapport au tout est bien de l'optimisme voltairien primitif. Ensuite, il y a Memnon, je passe vite, qui est la première mouture de Zadig.
Memnon.
Memnon, oui, c'est ça, Memnon, M-E-M-N-O-N, 15 chapitres, les 15 premiers chapitres dont il va faire de multiples lectures, en particulier à la cour de Sceaux. Bon, il y a notre Zadig proprement dit, sur lequel nous vons revenir. Il y a quelque chose de très important. 1748, c'est aussi la création de Sémiramis, une tragédie, qui est, au fond, la tragédie d'une noire et aveugle fatalité. C'est ça. Il y a des échos avec sa pièce de 1718, Œdipe, puisque là, le héros tue par mégarde sa mère, elle-même criminelle, et il en éprouve, je dirais, oui, non seulement du regret, mais du désespoir. À un moment, il dit « Ah, j'ai servi le ciel et je sens des remords ». Donc là, on sent le hiatus entre les puissances divines, l'éventuelle providence et le statut qui est fait à l'homme, sa destinée, donc sa destinée cruelle. Il y a également, ça je pourrais y revenir, on pourrait y revenir éventuellement, la publication d'une nouvelle édition des éléments de la philosophie de Newton. Et dans laquelle, cette nouvelle édition, dans laquelle il rompt avec ce qu'il avait dit en 1738, 10 ans avant, où il défendait le libre arbitre, la liberté de l'homme, et là, il lui tourne.
Exactement, lui tourne le dos. C'est peut-être une manière de présenter l'enjeu de ce texte quand on n'est pas très familier du parcours de Voltaire ni des œuvres précédentes qui précèdent ce texte Zadig, c'est de se dire que dans ce texte, Voltaire veut régler ses comptes avec la Providence. Le sous-titre d'ailleurs de Zadig, c'est Zadig ou la destinée. Notre vie, notre existence est-elle écrite de toute éternité? Ou bien l'homme a-t-il un moyen d'action sur ce qui lui arrive? C'est la question que se pose Zadig à chaque page.
À chaque page, jusqu'à la dernière mouture, donc fin 1748, de Zadig, qui est considéré comme un condensé ou une suite, même nom ou la sagesse humaine. Et là, c'est très intéressant parce que le héros subit toutes sortes de vicissitudes. Il y a un ange avec lequel il discute. À un moment, lors d'une rixe, il devient borgne. Et du coup, à la fin, il dit à l'ange, alors, tous ceux qui disent « tout est bien » ont tort. Et l'ange lui dit « pas du tout, parce que ce qui t'est arrivé, y compris ton œil perdu, c'est nécessaire, ça participe de l'arrangement général de l'univers. » Et à ce moment-là, Memnon réplique « eh bien ça, j'y croirai quand je ne serai plus borgne. Mm-hmm. » Donc là, il y a vraiment une rupture, je dirais, avec cette idée d'un arrangement providentiel du monde qui ferait suffisamment le poids face aux vicissitudes qui peuvent frapper un malheureux mortel. Et donc là je crois que c'est ça la leçon. Et donc, je crois qu'il faut situer Zadig dans ce cadre-là. Zadig n'est pas une expression de l'optimisme voltairien, comme on le dit quelquefois en identifiant son point de vue à celui de l'ange. C'est un pas, un jalon sur la voie qui va le mener à ce que vous avez très bien nommé l'adieu à la providence ou la rupture avec l'idée de providence.
Au temps du roi Moabdar, il y avait à Babylone un jeune homme nommé Zadig, né avec un beau naturel, fortifié par l'éducation. Quoique riche et jeune, il savait modérer ses passions. Il n'affectait rien, il ne voulait point toujours avoir raison et savait respecter la faiblesse des hommes. On était étonné de voir qu'avec beaucoup d'esprit, il n'insulta jamais par des railleries à ses propos si vagues, si rompus, si tumultueux, à ses médisances téméraires, à ses décisions ignorantes, à ses turlupinades grossières, à ce vain bruit de parole qu'on appelait « conversation » dans Babylone. Il avait appris dans le premier livre de Zoroastre que l'amour-propre est un ballon gonflé de vent dont il sort des tempêtes quand on lui a fait une piqûre. Zadig surtout ne se vantait pas de mépriser les femmes et de les subjuguer. Il était généreux, il ne craignait point d'obliger les ingrats, suivant ce grand précepte de Zoroastre « Quand tu manges, donne à manger aux chiens, dussent-ils te mordre ?» Il était aussi sage qu'on peut l'être, car il cherchait à vivre avec des sages. Alain Sagère, il est difficile de pas tout de suite être épris de ce personnage de Zadig dès la première description qu'il en est faite, tant il semble en un sens parfait, c'est-à-dire absolument bon, modéré, intelligent, et en plus, on l'entendra peut-être plus tard, avec ce seul désir, celui d'être heureux. Zadig, c'est l'histoire d'un enfant, d'un garçon, d'un jeune homme qui ne comprend pas pourquoi, alors qu'il est vertueux, il ne peut pas être heureux.
Oui, c'est tout à fait le fond du texte, c'est-à-dire cette impossibilité pour Zadig de parvenir au bonheur. Vous savez, il y a un commentateur, René Vaillot, dans le deuxième volume de Voltaire en son temps, qui s'appelle Avec Madame du Châtelet, et qui dit déjà il y a 30 ans, c'était en 1988, au fond, Zadig est le récit des désillusions et des abdications successives d'un homme de 50 ans, Voltaire, qui se retourne vers son idéal.
Ah, vous identifiez Zadig à Voltaire?
Dans ce cas-là, oui. Hein, dans ce cas-là, oui. Même si le détour par la biographie est toujours un peu risqué et quelquefois, oui, effectivement, peu d'intérêt. Là, je pense que il y a un lien. Je crois que Voltaire avait un idéal d'harmonie, de justice, de paix, dans lequel une société bienveillante, dans laquelle les individus, effectivement, auraient des rapports, je dirais, fraternels. Et puis, il s'est heurté à toutes sortes de vicissitudes. Effectivement, d'ailleurs, les années 1746-1749 sont marquées par toutes sortes d'événements. Il est obligé de s'exiler de la cour de Louis XV. Hein, parce qu'il a accusé les courtisans de tricher en jouant avec Madame du Châtelet. Et il est donc obligé de se réfugier d'abord à Annay, puis à Lunéville, à la cour du roi Stanislas, lui-même exilé. Enfin, il y a toutes sortes de vicissitudes. Il y a une époque qui se clôt, hein, et qui ensuite se poursuivra par la mort de Madame du Châtelet et puis les événements à la cour du roi de Prusse. Il ne retrouvera qu'à Ferney, au fond, une certaine stabilité.
Donc les aventures de Zadig sont à l'image de sa propre vie au moment où il rédige ce texte.
Je crois que oui, l'ensemble du cycle babylonien porte la marque de ces événements effectivement traumatisants. Et je crois que c'est à ce moment-là, et non pas simplement au moment du tremblement de terre de Lisbonne en 1755, qu'il commence à abandonner cette idée de la Providence et de l'optimisme qu'il défendait encore dans les discours en vers sur l'homme qui dataient de 1738, donc 6 ans avant.
Un exemple de cet écho entre la vie de Voltaire et le texte de Zadig, c'est le rapport au savoir. On l'a entendu, j'ai lu le tout début du texte où Zadig dit qu'il est sage, le narrateur dit que Zadig est sage puisqu'il veut vivre parmi les sages. On va vite découvrir qu'en fait le savoir, loin de servir Zadig, le rendre heureux, va le perdre. On trouve dès le troisième chapitre du livre un épisode qui s'appelle « Le chien et le cheval ». On voit que Zadig, parce qu'il a développé un art de l'observation très très fort, arrive à identifier l'espèce, la nature, le caractère boiteux d'un chien qui serait passé devant lui juste en observant ses traces. Même chose pour un cheval. Or, il s'avère que le cheval et le chien sont ceux du roi et de la reine qui ont été perdus. Quand Voltaire arrive à dire exactement ce à quoi ils ressemblent, on pense que c'est lui qui les a volés. Or, il est innocent, il va être puni injustement. Et il se rend bien compte ici que son savoir, qu'il a délivré au roi et à la reine pour les aider se retourne contre lui. Il en tire la conclusion de la vanité de tout savoir. Pour Voltaire, écrire cet épisode et affirmer la vanité de tout savoir, c'est quand même une révolution pour lui.
Oui, étant entendu que dans cet épisode, comme dans d'autres épisodes de Zadig, on retrouve le Voltaire combattant la superstition et le fanatisme, puisque dans le cas présent, ce sont des obscurantistes, les prêtres ou les mages, qui effectivement considèrent Zadig comme un magicien absolument intolérable et veulent effectivement veulent sa peau. Mmh. Et alors que c'est lui qui, par cette méthode inductive, au fond d'une façon parfaitement rationnelle, réussit à reconstituer effectivement le passage du chien et du cheval. Donc c'est là au fond il y a le conflit entre ce qui est de l'ordre du miraculeux, du superstitieux, du fanatique et ce qui est de l'ordre de la raison. Donc là c'est effectivement un des buts de Zadig aussi, et c'est de dénoncer cette intolérance et ce fanatisme.
Zadig vit combien il était dangereux quelquefois d'être trop savant. Et se promit bien, à la première occasion, de ne point dire ce qu'il avait vu. Cette occasion se trouva bientôt. Un prisonnier d'État s'échappa. Il passa sous les fenêtres de sa maison. On interrogea Zadig. Il ne répondit rien. Mais on lui prouva qu'il avait regardé par la fenêtre. Il fut donc condamné pour ce crime à 511 d'or. Et il remercia ses juges de leur indulgence, selon la coutume de Babylone. « Grand Dieu, dit-il en lui-même, qu'on est à plaindre quand on se promène dans un bois où la chienne de la reine et le cheval du roi ont passé. Qu'il est dangereux de se mettre à la fenêtre, et qu'il est difficile d'être heureux dans cette vie. » Il est difficile d'être heureux dans cette vie. Si vous êtes fait cette remarque un jour, chers auditeurs, eh bien ce texte est pour vous, Zadig ou la destinée. C'est de Voltaire, c'est le titre de l'œuvre dont nous parlons aujourd'hui en votre compagnie, Alain Sajard. Vous êtes philosophe. On vous doit apprendre à philosopher avec Voltaire aux éditions Ellipse, qui est un petit livre formidable, très utile pour découvrir la vie et la pensée de Voltaire. Vous êtes membre de la Société Voltaire, de la Société des études voltairiennes. Et vous nous accompagnez aujourd'hui donc aux côtés de Zadig que nous allons suivre dans ses aventures. Alors un mot quand même, c'est une série d'émissions sur le destin. Le livre s'appelle Zadig ou la destinée. On a dit que Voltaire voulait régler ses comptes avec la providence. Effort de définition, hein, avant d'aller plus loin. Qu'est-ce que le destin? Quelle différence avec la destinée et avec la providence? C'est pas la même chose.
Non, alors je dirais d'ailleurs que les deux intervenantes qui m'ont précédé hier et avant-hier, outre leur mérite propre et la valeur de leurs interventions en soi, ont bien déblayé le terrain.
Oui, on parlait d'Œdipe, voilà, lundi matin, les stoïciens.
Et hier, les stoïciens, ouais. Évidemment, on trouve dans la providence chrétienne des échos du destin des païens et des grecs. Mais pour répondre à votre question, je crois qu'il y a trois sens principaux dans Zadig, dans le conte de Voltaire. Il y a trois sens principaux de la destinée. D'abord, je crois, les vicissitudes de l'existence et les coups du sort. Tout ce qui, effectivement, constitue les aléas de l'existence. Par exemple, quand Zadig est réduit en esclavage avec son valet, Zadig lui dit « Je vois que les malheurs de ma destinée se répandent sur la tienne. » Donc voilà, les coups du sort est ici partagé. Alors, il y a aussi cette idée, elle a été évoquée hier et avant-hier, cette idée de la moïra grecque. C'est-à-dire la moïra, c'est-à-dire cette force, cette puissance qui se distribue les lots, les sorts. Effectivement, à un moment, le brigand Arbogad, au chapitre 14, quand il veut justifier qu'il est devenu un voleur, il dit « J'étais au désespoir de voir que dans toute la terre, la destinée ne m'eût pas réservé ma portion ». Voilà, ça c'est la moyenne.
Oui, parce que tous les personnages que Zadig croise font la même réflexion sur la destinée. Hein. Tout le monde se demande est-ce que nous avons notre mot à dire dans cette chose qui est l'existence et dans laquelle il semble que nous n'avons aucun rôle à jouer, que ça se retourne contre nous.
Oui. Alors quelquefois, le sort tourne bien à un moment donné quand.
Souvent avec les méchants d'ailleurs.
Oui.
L'envieux. Alors,
quelquefois avec les bons, mais vous avez raison, avec les méchants principalement. On y reviendra. Mais quand. Zadig apprend que sa bien-aimée, la reine Astarté, n'est pas morte. Il dit « Ô puissance immortelle qui présidait au destin, au pluriel, des faibles humains, me rendez-vous Astarté. » Voilà. Donc là, il y a le destin qui rend, qui restitue. Ça, c'est le premier sens. Le deuxième sens, celui peut-être dont Voltaire est le plus proche, c'est la nécessité. J'ai cité tout à l'heure la nouvelle mouture des éléments de la philosophie de Newton. À un moment, au chapitre 18, l'ermite dont on reparlera dit « La bile rend colère et malade, mais sans la bile, l'homme ne saurait vivre. Tout est dangereux ici-bas, mais tout est nécessaire. » C'est cet alliage de bien et de mal indéfectible dont il parlait dans « Le monde comme il va ».
Là, il faut entendre, pardonnez-moi, l'influence de Leibniz, quand même.
Oui, bien entendu.
Pour lequel le mal est nécessaire parce qu'il faut un moindre mal pour un bien supérieur. Il faut faire confiance au Dieu qui a fait advenir le monde selon un principe moral. C'est le meilleur des mondes possibles, ce qui nous paraît intolérable en cette vie. Et simplement une illusion d'optique, nous ne voyons pas qu'en fait, le mal qui nous arrive est nécessaire au bien général.
Ça, c'est le discours de l'ange exterminateur. Et je suis entièrement d'accord que l'ange exterminateur est leibnizien, et malbranchiste par certains côtés. Mais ce que je prétends, c'est que justement, Voltaire, lui, n'est pas, ou n'est plus, à ce moment-là, leibnizien et optimiste. Il ne faut pas le confondre avec le discours de l'ange. Mais en tout cas, la nécessité, et je crois qu'à un moment, dans le chapitre 12, le souper, qui réunit, vous savez, tous ces croyants des différentes religions qui s'entrebattent pour savoir si leur culte est le meilleur, est meilleur que celui du voisin, et lequel doit l'emporter. À un moment, Zadig dit, mais en réalité, vous serez tous d'accord pour dire, il existe un être supérieur de qui dépendent la matière et la forme.
Voilà, au gré de ces voyages, parce qu'il faut quand même rappeler qu'à chaque chapitre, il y a un épisode différent. Zadig se retrouve ailleurs, puisqu'il est en fuite perpétuelle, il se fait punir et rechercher par tous les gens qu'il croise. Et donc, à chaque chapitre, arrivent des personnages différents. Et donc, le personnage du souper met en scène, en effet, 5 ou 6 personnes de culture et de religion différentes.
C'est ça.
Qui sont prêtes à s'entretuer parce qu'elles sont en désaccord. Et Zadig va leur dire, mais en fait, pas du tout. Le point commun entre vous tous, c'est que vous croyez tous en l'existence d'un être supérieur. Et ainsi, il accorde tout le monde.
Voilà, alors donc là, si on assigne à Voltaire une définition ici du destin, je pense qu'elle se résume dans ce qui sera le leitmotiv de son œuvre. Hein, c'est-à-dire, il y a un être supérieur de qui donc dépendent la matière et la forme, c'est-à-dire le démiurgos platonicien. Qui a façonné le monde. Mais évidemment, ce monde n'a pas été façonné à la manière du Timée, le dialogue de Platon, que Voltaire considère comme des extravagances. Ce monde, c'est le monde de Newton.
Voilà, c'est un monde physique.
Un monde physique.
Non pas métaphysique.
Voilà, et c'est ça. Et un monde donc physique. Et enfin, si toutefois je me permets d'enchaîner, le troisième sens, c'est le destin, je dirais, au sens de la prédestination. C'est-à-dire le fait que, pour chacun, il y a un sort qui est fixé à l'avance, le déroulement des événements est écrit, et on est, par avance, soit damné, soit élu, et on est, au fond, condamné à être soit un criminel, soit une victime, sans qu'on puisse échapper à ce sort terrible. Et là, je crois qu'il y a quelque chose, effectivement, ici, qui est, c'est le chapitre 18, hein, sur l'ermite, qui en est la clé. Il y a, effectivement, cet ultime sens. Alors, vous me direz, et la providence dans tout ça? Oui. En réalité, la providence intervient dans le texte à 3 ou 4 reprises. Elle est nommée à 3 ou 4 reprises. En gros, d'une part, elle est présentée comme une marâtre cruelle et persécutrice, C'est quand il est chassé de, il est chassé de Babylone parce que il a gagné la main d'Astarté et
qui est la reine.
Et la reine, voilà, la reine dont le roi Baobab.
Parce que Zadig est amoureux souvent.
Oui.
Et alors il est amoureux d'une femme qui va se moquer de lui, qui va le trahir. Il est amoureux d'une femme qui est prête à le quitter parce qu'il prend le risque d'être borgne, blessé à l'œil. Il est amoureux d'une femme qui en fait est prêt à épouser son meilleur ami alors que lui se fait passer pour mort. Il est malheureux en amour, mais il est toujours amoureux. C'est un personnage amoureux jusqu'au jour où il rencontre Astarté, la reine, donc l'épouse du roi qu'il a pris sous sa protection. Malheur absolu, puisque s'il est amoureux de la reine et qu'en plus la reine est amoureuse de lui, alors ils sont voués à la condamnation et à l'exil perpétuel de la part du roi.
Oui, d'ailleurs, bon, on va pas rentrer dans
c'est
les détails.
C'est une très belle histoire d'amour aussi, Zadig, c'est ça qu'il faut
oui,
dire.
Oui, il y a de très belles histoires d'amour. Et effectivement, on pourrait citer aussi, puisqu'on est dans cette perspective là contemporaine, comment ça s'appelle, la balance ton porc. Il y a un chapitre.
Le hashtag qu'il y a sur Twitter qui permet à beaucoup de femmes d'exprimer qu'elles ont été victimes d'un harcèlement de la part d'un homme dans leur vie. C'est le hashtag balance ton porc, oui.
Voilà, alors je pense au tout à fait contemporain le chapitre qui s'intitule Les rendez-vous. Zadig menace d'être exécuté parce que des prêtres l'ont accusé d'impiété encore une fois et donc il doit finalement comparaître devant des juges. Et heureusement il y a une veuve, la belle Almona qui l'a pris en pitié et donc elle veut le sauver et donc elle va trouver chacun des prêtres, et elle leur dit, voilà, si vous allez voir le juge et que vous et qu'il est gracié, que vous le faites gracier, bien, je vous accorderai, comme on disait autrefois, mes faveurs. Et donc, le juge, il est émoustillé, il dit, parfait. Et elle fait la même chose pour les quatre juges. D'ailleurs, il faut dire que la description que fait Voltaire de la belle Almona est un modèle de sensualité, mais en même temps de délicatesse. C'est vraiment d'un érotisme vraiment très, très doux. Et donc, la clé de l'affaire, c'est que les quatre prêtres, pardon, se retrouvent à la fin devant les juges pour demander la grâce de Zadig. Et à leur grande honte, dit le comte, dit Voltaire, ils sont obligés d'avouer le méchant et sordide prétexte qui leur a fait demander la grâce de Zadig. Donc voilà, effectivement, là il y a et puis il y a cette rencontre avec Astarté qui provoque la jalousie du roi. D'ailleurs, c'est Astarté qui est la première, enfin c'est un détail, à du penchant. Mais ce sont aussi de belles histoires d'amour qui se terminent bien puisqu'on parlait de la providence. C'est une marâtre cruelle, mais c'est aussi une puissance bienveillante puisque dans l'invraisemblable dernier chapitre de Happy End, eh bien, la reine et lui, Zadig, adorèrent la providence. Donc il y a un moment où, heureusement réunis, et ils rendent grâce à cette providence.
Après s'être occupé de la destinée déplorable de la plus aimable des femmes et de la première reine du monde, Zadig fit un mouvement de retour sur lui-même et s'écria « Qu'est-ce donc que la vie humaine ? Ô vertu, à quoi m'avez-vous servi ? Deux femmes m'ont indignement trompé, la troisième qui n'est point coupable et qui est plus belle que les autres va mourir. » Tout ce que j'ai fait de bien a toujours été pour moi une source de malédiction, et je n'ai été élevé au comble de la grandeur que pour tomber dans le plus horrible précipice de l'infortune. Si j'eusse été méchant comme tant d'autres, je serais heureux, comme eux. Accablé de ces réflexions funestes, les yeux chargés du voile de la douleur, la pâleur de la mort sur le visage et l'âme abîmée dans l'excès d'un sombre désespoir, il continuait son voyage vers l'Égypte.
Ah!
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Les 10h30, nous parlons de Zadig ou la destinée aujourd'hui en compagnie du philosophe Alain Sagère. Alors, heureusement que vous avez dit qu'il y avait un happy end à la fin, que c'est fini. C'est bien, enfin, il faut quand même rajouter qu'il y a un appendice au texte. Hein, donc, ça finit bien, mais le doute est quand même maintenu pour le lecteur. Parce que l'extrait que je viens de lire, là, on est à peu près pratiquement à la moitié du texte, après l'épisode dit de la femme battue. Zadig est désespéré. Et il se dit finalement que pour être heureux, il vaut mieux être méchant. Et pourtant, il continue, il s'obstine. Et c'est là où le texte est génial. En plus des descriptions d'une sensualité effarante, comme vous l'avez dit, des sentiments très forts, des scènes de bagarre qui sont racontées, mais alors vraiment de manière à la fois très précise, très rapide, c'est trépidant, c'est romanesque, c'est désespérant par moments. Mais ce qui le fil qui relie tous ces chapitres, c'est l'obstination de Zadig à continuer. Il ne baisse pas les bras, il veut à tout prix être heureux. Cette obstination est peut-être la meilleure force à opposer contre celle du destin.
Oui, puisque vous parlerez demain du samsara, vous savez, ce cycle hindouiste et bouddhiste de renaissance et de disparition, je pense que l'épopée de Zadig ressemble à effectivement à ce schéma. C'est-à-dire, il descend au fin fond effectivement, du désespoir et du dénuement. Il y a un moment, il est vendu comme esclave. Et il est tombé du piédestal où il était ministre. Mm. Donc là, c'est vraiment des montagnes russes. Hein. Ça monte et ça descend. Et on pourrait aussi, là, puisqu'on parlait de Voltaire, dire la même chose de l'auteur. Hein. Oui. Ce Voltaire perpétuellement égrottant et cacochime, souffrant et maladif, mais qui renaît de ses cendres avec une vitalité étonnante et ainsi de suite. Donc je vois que c'est le mouvement même du conte de rendre compte de cette obstination, hein, que vous avez fort bien relevé, mmh. et de ces moments où au fond on entend déjà dans les plaintes de Zadig, on entend déjà les propos de Justine.
Justine.
L'héroïne des infortunes de la vertu.
De Sade.
De Sade, la trilogie, bien entendu.
Quel point commun entre Zadig et Justine ?
Quel point commun entre Zadig et Justine ? Eh bien, dans le dernier morceau de la trilogie, c'est-à-dire la nouvelle Justine ou les malheurs de la vertu, dès le premier chapitre, Sade cite une parole de l'ermite, hein, de Jesrad, et il dit, au fond, dans une sorte de raisonnement cynique et retors, il dit, c'est pour ça que le discours de l'ange ouvre la porte à l'immoralité. Parce que, donc, Sade dit, puisqu'il n'est pas de bien, puisque nécessairement il peut sortir un bien d'un mal, hein, et voilà, et bien, faisons le mal jusqu'au bout, au fond. Puisque de tout mal va nécessairement sortir un bien. Eh bien, alors, allons-y, Franco.
C'est ça.
Faisons le mal. Et puisqu'au fond, puisque pour la nature, tout est indifféremment bien et mal et que tout est mêlé, eh bien, il n'y a pas de raison d'être vertueux et malheureux plutôt que heureux.
C'est la philosophie de Sade, hein, ça. Puisque la nature tue sans être condamnée, pourquoi est-ce qu'à notre tour, nous ne pourrions pas tuer sans être condamnés?
Exactement. Et puisque de toute manière, ça fait partie
de
l'ordre de la nature. Alors, je crois qu'évidemment, Voltaire, lui, n'est pas du tout sadien. D'ailleurs, dans cette nouvelle Justine, il y a un personnage, Chrysostome, qui se moque de cet auteur qui a prétendu qu'il y avait un sentiment de justice dans le cœur de l'homme et que l'axiome « ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fie », cet axiome est ridicule et absurde. Or, comme vous le savez, c'est la base même de la morale voltairienne. Mais néanmoins, la brèche est ouverte par le discours de l'ange.
Alors, venons-y à ce discours de l'ange, Alain Sagère, puisque depuis le début de l'émission, vous parlez du discours de l'ange. Quiconque n'a pas lu ce texte se demande bien de quoi vous pouvez parler. Que vient faire un ange dans les aventures de Zadig ? Nous sommes au chapitre 18, intitulé « L'ermite oui. ». Zadig rencontre un ermite, hein, Voltaire écrit, il rencontra en marchant un ermite dont la barbe blanche et vénérable lui descendait jusqu'à la ceinture. Il tenait en main un livre qu'il lisait attentivement, donc le retour du savoir ici. Hein. Zadig s'arrêta, lui fit une profonde inclination. L'ermite le salua d'un air si noble et si doux que Zadig eut la curiosité de l'entretenir. Il lui demanda quel livre il lisait. « C'est le livre des destinées, » dit l'ermite. « Voulez-vous en lire quelque chose ?» Et là, Zadig va accompagner l'ermite dans ses aventures. Celui-ci se comporte de manière un peu surprenante quand un homme leur ouvre la porte de chez lui, les accueille, les nourrit. En partant, l'ermite dit « je vais le remercier », il brûle la maison. Quand au contraire, quelqu'un les accueille avec beaucoup d'avarice, eh bien, il lui offre des cadeaux, comme pour mieux l'éduquer. Il fait toujours l'inverse de ce qu'on croit être normal. Il y a toujours une bonne raison à cela. C'est là où on voit que l'ermite est sans doute le plus sage d'entre eux. Et surtout, à un moment, alors là, intervention du surnaturel, l'ermite se révèle être un ange qui porte un nom, c'est Jesrad. Voici l'extrait du dialogue entre Zadig et cet ange. À la sagère, on va enfin comprendre de quoi il est question.
« Mais quoi ?» dit Zadig. « Il est donc bien nécessaire qu'il y ait des crimes et des malheurs, et les malheurs tombent sur les gens de bien. » « Les méchants, répondit Jesrad, sont toujours malheureux. Ils servent à éprouver un petit nombre de justes répandus sur la terre, et il n'y a point de mal dont il ne naisse un bien. » Mais, dit Zadig, s'il n'y avait que du bien et point de mal. Alors, répondit Jesrad, cette terre serait une autre terre, l'enchaînement des événements serait un autre ordre de sagesse, et cet ordre qui serait parfait ne peut être que dans la demeure éternelle de l'être suprême de qui le mal ne peut approcher. Il a créé des millions de mondes dont aucun ne peut ressembler à un autre. Cette immense variété est un attribut de sa puissance immense. Il n'y a ni deux feuilles d'arbres sur la terre, ni deux globes dans les champs infinis du ciel qui soient semblables. Et tout ce que tu vois sur le petit atome où tu es né devait être dans sa place et dans son temps fixe, selon les ordres immuables de celui qui embrasse tout. Les hommes pensent que cet enfant qui vient de périr est tombé dans l'eau par hasard, que c'est par un même hasard que cette maison est brûlée. Mais il n'y a point de hasard. Tout est épreuve, ou punition, ou récompense, ou prévoyance. Souviens-toi de ce pécheur qui se croyait le plus malheureux de tous les hommes. Orosmade t'a envoyé pour changer sa destinée. Faible mortel, cesse de disputer contre ce qu'il faut adorer. Mais, dit Zadig, comme il disait mais, l'ange prenait déjà son vol vers la dixième sphère. Zadig à genoux adora la Providence et se soumit. L'ange lui cria du haut des airs « Prends ton chemin vers Babylone. »
C'est la comédienne Marie-Julie Parmentier qui prête sa voix ici à l'ange Jesrad. Alain Sagère, tout est dans le « mais ».« Mais », dit Zadig. Comme il disait « mais », l'ange prenait déjà son vol vers la dixième sphère. Dans ce « mais » se trouve à la fois l'étonnement de Zadig et peut-être son refus de céder complètement à la destinée. Dire « mais », c'est ne pas tout à fait abdiquer.
Oui, je pense que dans ce « mais », trois points de suspension, je pense que dans ces trois points de suspension, il y a toutes les objections rentrées de Zadig Voltaire et que dans ces trois points de suspension, tout Candide est déjà contenu.
Voilà, jusque-là.
Oui, je pense qu'on peut aller jusque-là. Mais puisque vous avez cité l'épître dédicatoire du conte, je crois qu'il faut rappeler que Voltaire dit « L'histoire de Zadig, ouvrage qui dit plus qu'il ne semble dire mm-hmm. ». Donc je crois qu'il ne faut pas s'en tenir simplement, je dirais, à ce que dit l'ange et s'arrêter purement et simplement à la résignation ou à la soumission de Zadig. J'insisterai aussi sur une autre citation qui est tirée de la préface de 1765 du dictionnaire philosophique et qui est souvent citée d'ailleurs dans les commentaires du dictionnaire dans ces derniers temps. Voilà ce qu'il dit. Les livres les plus utiles sont ceux dont les lecteurs font eux-mêmes la moitié. Ils étendent les pensées dont on leur présente le germe. Je crois que là, devant ces points de suspension, devant ces mets de points de suspension, le lecteur est placé devant, je dirais, sa propre humanité ou sa propre inhumanité, devant sa propre responsabilité. Est-ce qu'il va gober purement et simplement cet infanticide ?
De quel infanticide s'agit-il ? Oui. Précisons les choses.
L'ange exterminateur, l'ermite, noie un enfant, d'ailleurs, dans les gravures qui accompagnent le conte et les gravures contemporaines, c'est une scène terrible. Et donc, il noie cet enfant, c'est un infanticide, et quand Zadig horrifié lui demande pourquoi il a commis un acte aussi affreux, il dit, voilà, cet enfant était prédestiné à tuer ultérieurement toute sa famille, c'est un criminel, donc j'ai évité une catastrophe. Et à ce moment-là, Zadig s'insurge, il dit, mais est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu éduquer et corriger cet enfant de manière à lui éviter effectivement de devenir un criminel? Ah oui, mais dit l'ange, à ce moment-là, c'est lui qui aurait été tué, lui, sa femme et son fils. C'est un discours de charlatan. Je pense que c'est un discours de charlatan et que Voltaire nous a adressé un signe dans le premier chapitre, qui s'appelle le Borgne, et dans lequel Zadig manque de perdre son œil, son œil gauche, et donc à la suite d'une rixe. Et donc on fait appel à un médecin qui s'appelle Hermès. Et Hermès dit, moi, il n'y a rien à faire, si ça avait été l'œil droit, je l'aurais guéri, c'est l'œil gauche, et Hermès prédit l'heure, la date à laquelle Zadig va perdre son œil. Et puis, l'abcès crève, et il garde son œil. Et à ce moment-là, Hermès écrit un livre pour prouver que l'œil de Zadig n'aurait pas dû guérir. C'est exactement le même schéma que l'ange. Il noie un enfant, on lui demande pourquoi, il dit c'est parce qu'il serait devenu un criminel. On lui dit, mais t'aurais pas pu le corriger? Ah mais, voilà, il a toujours raison.
Si j'avais corrigé, ça aurait été encore pire.
Ça aurait été encore pire, ou en tout cas, de toute manière, un mal en s'en serait suivi, il serait... Lui-même, il aurait été lui-même victime. Je crois qu'il y a cet acharnement à vouloir avoir raison, ce dogmatisme poussé jusqu'à l'absurde, qui est comparable chez Hermès, le médecin, au premier chapitre, et au chapitre 18, chez le...
Mais la charge de Voltaire est là, précisément. C'est non seulement contre l'idée même de Providence, mais surtout contre les personnes qui se servent, qui instrumentalisent l'idée de Providence pour se donner raison. Donc c'est en fait un dogmatisme religieux, nommons-le, qui est l'ennemi ici de Voltaire.
L'ange est un fanatique. D'ailleurs, je me demande comment on peut vraiment croire que Voltaire le prend au sérieux. Il y a un moment où Zadig dit, après effectivement tous les crimes qu'il a commis et qui ressemble dans les actions de l'ange, il y a beaucoup de choses qui ressemblent à une parodie de parabole évangélique. Quand il, vous l'avez dit, quand il prend à celui qui n'a rien et qu'il donne à celui qui a en abondance, c'est la parabole des talents. Voilà, on donnera à ceux qui ont beaucoup de biens et à celui qui n'a rien, on retirera ce qu'il semble avoir. Je me demande comment on n'a pas aperçu, il y a d'autres exemples de pastiches évidents de évangéliques. Voilà,
revenons sur ce mais, le mais de Zadig. L'ange lui dit, faible mortel, cesse de disputer contre ce qu'il faut adorer. Mais, dit Zadig, comme il disait mais, l'ange déjà prenait son vol vers la dixième sphère. Zadig, à genoux, adora la providence et se soumit. Vous dites, dans ce mais se trouve aussi la suite des écrits de Voltaire. Ça annonce déjà Candide, c'est ça?
Oui, ça je dirais, déjà, il y a une préfiguration de même nom. De même nom, la sagesse humaine. Donc, où effectivement, là, pour le coup, comme je l'ai dit, le héros est borgne pour de bon. Mais justement, il refuse de mettre dans la balance son œil perdu et l'arrangement général de l'univers, en considérant que l'arrangement général de l'univers pèserait plus. Un œil perdu pèse davantage. Mais ne parlons même pas d'un infanticide.
Mais Zadig dit mais il se soumet quand même.
Alors
un décalage entre le mais qui semble penser qu'il n'est pas d'accord et pourtant il se met à genoux, il adore la providence.
C'est complètement
anti-Voltaire. C'est quoi? C'est l'idée de derrière de Pascal, il veut agisser selon les coutumes mais n'en pensez pas moins au fond de vous.
C'est complètement anti-voltairien de dire, voilà, tu dois cesser de disputer contre ce que tu dois adorer et te soumettre. D'ailleurs, Je me demande comment on ne perçoit pas l'ironie profonde de ce chapitre. Il y a un moment où, quand l'ange, l'ermite, a accompli tous ses actes abominables, il se met à justifier, donc, en termes lemnitiens, ses actions. Et Zadig dit... j'admire comment un homme qui commet de telles extravagances peut raisonner si bien. Non, mais bon, on entend là l'ironie. Où est l'ironie voltairienne si elle n'est pas là ?
Elle est partout dans le texte de toute façon.
Oui, bien sûr.
Qui à la fois, on l'a dit, très, très sincère dans sa description des sentiments, de désir de Zadig d'être heureux, et en même temps qui est très grinçant. Tous les personnages sont très ironiquement dépeints, de manière très fine hein, d'ailleurs.
Absolument.
Mais on a toujours le sourire aux lèvres quand on lit ce texte.
Oui, il y a
on se régale des portraits ironiques, justement, des charges adressées par Voltaire contre ses détracteurs.
Absolument. Là, il y a une charge critique et effectivement un rire grinçant qui parcourt l'ensemble du conte. Et j'y insiste très lourdement, effectivement, dans ce discours de l'ange qui n'est, à mon avis, pas pris au sérieux du tout par l'auteur. Même s'il fait soumettre effectivement son héros à ce dire prétendument divin.
Le conte Candide qui paraît quelque temps plus tard en serait donc là une sorte de conclusion. Enfin, dans Zadig, on se pose encore la question de savoir quelle place il faut accorder à la Providence. En Candide, au contraire, elle est vraiment tournée en ridicule, ainsi que les tenants de la philosophie. La place du savoir dans Zadig, elle est questionnée, moquée, mais pas complètement rejetée. Dans Candide, alors là, on a la figure hein, du philosophe qui devient ridicule, qui pense que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, alors qu'il n'en est absolument rien.
Oui, 1759. En même temps, vous voyez, il faut être attentif. Il y a un moment, c'est dans le dernier chapitre, le chapitre 30. Moi, je suis très attentif à ça.
De Zadig ou de Candide ?
De Candide, oui, pardon. Où Pangloss dit de façon très nette, voilà, en réalité, j'avoue que j'ai souffert horriblement, mais ayant dit une fois que tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes possible, je l'ai répété, mais je n'y croyais plus. Donc, Candide mérite d'être lu deux fois, de ce point de vue-là. Parce que quand on sait que lorsque Pangloss répète incessamment « tout est mieux dans le meilleur des mondes possible », eh bien je pense qu'à partir du moment où il a été chassé du château de Tündententronck, où il défendait cette thèse, ce château qui était le paradis, eh bien à partir du moment où il a été chassé du paradis, où il a attrapé la vérole, etc., je pense que quand il répète « tout est mieux, tout est bien dans le meilleur des mondes possible », eh bien c'est ironique et il n'y croit plus. Je pense qu'il faut lire le conte de cette façon-là. Donc il faut être très attentif au texte de Voltaire et se laisser porter par lui, hein, véritablement, hein, se laisser par lui. Le lire un peu à la manière dont Virginia Woolf recommande la lecture.
C'est-à-dire
vous savez, dans l'émission de lundi, voilà, c'est cette idée de se laisser... investir par
dont
le texte.
Dont parlait Géraldine Vosna-Savoy dans le journal.
Exactement, avec cette belle archive. Voilà, je crois que oui, il faut se laisser porter par le texte de Voltaire et être capable, comme pour le dictionnaire philosophique, dont on a dit qu'il était fait d'articles peut-être décousus, indépendants les uns des autres. On a montré comment on devait même les croiser pour faire entendre un unisson. C'était bien, avec Zadig aussi, il ne faut pas hésiter à croiser les chapitres, comme je l'ai fait. À rapprocher les chapitres les uns des autres de manière à faire ressortir l'unité et la cohérence. Hein, parce que quelquefois, on a dit, Zadig, au fond, c'est une suite de chapitres décousus. Mais non, il y a une unité profonde. Seulement, il faut savoir la chercher et la trouver.
Merci à Alain Sagère d'être venu nous en parler aujourd'hui de ce Zadig ou la destinée. Dont on recommande la lecture, vous le trouvez dans beaucoup d'éditions différentes. J'ai sous les yeux celle qu'on trouve en folio classique. On peut lire aussi de vous le « Apprendre à philosopher avec Voltaire ».
J'espère bien.
Aux éditions Ellipse, on l'apprend très bien. En tout cas, c'est un bonheur de vous entendre parler de Voltaire. On se quitte avec la fantaisie en ré mineur de Mozart, un morceau de musique fabuleux qui est dédié à Zadig. Thank you. Lire Zadig ou la destinée de Voltaire, c'est prendre le risque de changer de registre à chaque chapitre. On passe du grave au léger, du sérieux à l'humoristique. Et c'est exactement ce qui se passe dans cette fantaisie en ré mineur de Mozart. On change de registre à chaque moment du morceau. Et c'est un enchantement. Merci encore Alain Sagère d'être venu nous en parler aujourd'hui sur France Culture. Les chemins de la philosophie, avec Mozart qui nous accompagne. Il est temps de retrouver le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour, chère Géraldine.
Bonjour, chère Adèle, et bonjour à tous.
Comme tous les jours, vous nous parlez de philosophie en lien avec l'actualité. Quelle actualité ou livre a retenu votre attention?
Bon, alors je vais vous parler d'Alexis de Tocqueville. J'ai un grand amour pour
vous,
Alexis de Tocqueville.
Vous le connaissez bien.
Voilà, plus précisément son incontournable Démocratie en Amérique que l'on peut voir depuis la semaine dernière et jusqu'à dimanche au théâtre à Bobigny dans une mise en scène de Romeo Castellucci avec ce titre sobre et littéral, il faut le dire, Democracy in America. Alors, ce qui est intéressant, bien sûr, c'est ce passage de la philosophie au théâtre. Comment de grands concepts, mais aussi des détails fameux que seul Tocqueville a eu le chic de remarquer, sont dialogués, discutés et disputés, même réactualisés en fait sur la scène. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est la lecture singulière de ce chef-d'œuvre par un metteur en scène. Qu'est-ce qui l'a intéressé lui dans ce texte? Comment Romeo Castellucci l'a-t-il lu, lui, interprété, mis en scène?
Je pense que la démocratie, chez les Grecs, est née, entendue comme forme sociale et politique, une fois que les dieux sont morts. Donc je pense que le fondement de la démocratie, c'est aussi la naissance du droit. Par contre, en Amérique, quelque chose se passe, parce que selon de Tocqueville, le fondement de la démocratie, c'est justement chez les puritains, qu'ils conçoivent une société surtout pas aristocratique, donc tout le monde est, sauf les Noirs et les Indiens, bien entendu, et les femmes, et tout le monde est au même niveau. Mais c'était déjà quelque chose de surprenant. Donc c'est le fondement de la démocratie américaine, c'est plutôt théologique, donc c'est tout au contraire de la démocratie grecque.
Le fondement de la démocratie et son rapport au religieux, au dieu, au théologique, voilà ce qui a marqué pour sa part Romeo Castellucci. Et c'est d'ailleurs une première manière de voir ce qui se joue dans cette adaptation de Tocqueville sur les planches, c'est d'observer comment son analyse philosophique des fondements de la démocratie prend une couleur singulière, dialoguée, vivante, mais aussi elle est mise en question sur la scène du théâtre. Et sur cette idée du théâtre qui reprend la forme du débat d'idées, je vous renvoie d'ailleurs à l'éclairant billet culturel de Mathilde Sérel du 14 septembre dernier. Mais il y a une autre manière de voir ce qui se joue ici avec Democracy in America, c'est aussi d'analyser le passage inverse, celui du théâtre à la philosophie, de revenir au texte lui-même de Tocqueville et de se demander, et lui alors, comment voyait-il le théâtre, comment le lisait-il, qu'a-t-il pu observer et induire à partir du théâtre, de sa philosophie de la démocratie, des mœurs de notre vieille Europe aristocratique et de la jeune démocratie américaine.
J'avoue que dans l'Amérique, j'ai vu plus que l'Amérique. J'y ai cherché une image de la démocratie elle-même, de ses penchants, de son caractère, de ses préjugés, de ses passions. J'ai voulu la connaître, ne fût-ce que pour savoir du moins ce que nous devions espérer ou craindre d'elle.
Ce que l'on peut espérer ou craindre de la démocratie, c'est ce que Tocqueville avait en tête lorsqu'il est parti en Amérique. Et cette phrase, c'est fou, on pourrait l'appliquer à ce qu'il dit du théâtre. Oui, c'est fou, non seulement rien n'a échappé de la démocratie à Tocqueville, ni ses lois, ni ses mœurs, ni ses habitudes, ni ses goûts, ni ses dérives, mais ce qu'il en dit se retrouve donc mot pour mot dans ce qu'il dit de son théâtre. C'est dans le second volume de la Démocratie en Amérique, première partie précisément, chapitre 19, que Tocqueville déclare que la révolution démocratique d'un peuple se produit d'abord par le théâtre. Et que si l'on veut, je cite, juger d'avance la littérature d'un peuple qui tourne à la démocratie, il faut étudier son théâtre. Comme si la démocratie était visible dans son état premier sur les planches. Et c'est vrai d'ailleurs, par son public mélangé, sans distinction de classe, par sa peinture de la nature humaine, vices et vertus confondues, et par sa liberté de traiter les sujets, le théâtre rappelle bien l'essence de la démocratie. Et là, et le point intéressant, quand Romeo Castellucci s'inspire de la démocratie en Amérique de Tocqueville et réactualise un théâtre d'idées, Tocqueville, eh bien lui, avait déjà fait du théâtre le révélateur de ce à quoi devait ressembler la scène en ébullition du monde démocratique.
C'est passionnant, Géraldine, nous entendre parler de Tocqueville que vous connaissez si bien.
Et que j'aime tant.
Et donc, une pièce de théâtre
qui est à voir au théâtre au MC93 Bobigny. C'est jusqu'à dimanche 22 dans une mise en scène de Roméo Castellucci.
Merci Géraldine. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Merci à Caroline Barcou qui a préparé cette émission, avec Claire Perryman-Holt, à Maude Markiewicz qui rejoint l'équipe et à qui je souhaite la bienvenue, David Pargamin, Marianne Chassor, vous, Géraldine Mosna-Savoie bien sûr, Olivier Bétard qui réalise cette semaine avec l'aide de Nicolas Berger. J'ai cité le nom de la comédienne qui a lu le texte que je diffusais, c'est pas Marie-Julie Parmentier, c'est Julie-Marie Parmentier évidemment, ainsi qu'Yvan Morane qui lise les textes pour nous. Cette semaine, j'en profite pour renvoyer au dernier numéro de la revue Papier de France Culture qui porte cette fois-ci sur le thème du nouveau, une revue à vous procurer en librairie ou en kiosque où vous trouverez beaucoup de retranscriptions d'émissions ainsi que des papiers inédits. On se retrouve demain pour la suite de cette série sur le destin. Demain, nous parlerons du samsara et le cycle de la réincarnation. Ce sera Marc Balanfa qui viendra nous en parler. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission, rien de plus simple, rendez-vous sur le site des Chemins de la Philosophie. Vous pourrez la réécouter en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez.